Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, il était dans le coma depuis près de 40 ans. L'ancien joueur de l'équipe de France de football, Jean-Pierre Adams, est mort ce matin à Nîmes. Nous vous raconterons son histoire. Quand la mère d'un trafiquant de drogue condamné en justice est elle-même expulsée de son HLM, elle paye donc pour son fils. Nous serons avec le président de l'organisme HLM, l'adjoint au maire de Nice, Anthony Boré. Y aura-t-il une réforme des retraites avant la fin du quinquennat? Les régimes spéciaux, un minimum à 1000 euros, c'est à nouveau sur la table. À 13h30, avec notre invité, les prix augmentent, alimentation, carburant, énergie, matières premières. Faut-il redouter une inflation durable? J'attends vos témoignages et vos questions. 01 45 24 7000. Notre invité est l'économiste Anne-Laure Delatte. La rentrée universitaire, presque normale après un an et demi de Covid. Le président de l'université de Strasbourg a du mal à y croire.
C'est très inhabituel de voir des étudiants sur un campus. Une impression très drôle après 18 mois de crise. C'est vraiment un élément très libérateur pour les profs, les personnels et les étudiants.
Dans l'actualité encore, un tunnel creusé à partir d'un évier. Évasion dans une prison de haute sécurité en Israël. Chasse à l'homme. Les talibans ont-ils pris le contrôle de toute l'Afghanistan? Ils disent maîtriser la vallée du Panjshir. Une boule lumineuse dans le ciel vue dans un grand quart nord-est du pays. C'était une météorite. Le prix du roman Fnac, l'un des premiers de la saison pour Jean-Baptiste Delamo. Et puis la météo, journée estivale, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Il était tombé dans le coma en 1982, il y a près de 40 ans, après une erreur d'anesthésie. L'ancien footballeur international Jean-Pierre Adams est mort ce matin à l'hôpital de Nîmes. Il avait 73 ans. Les amateurs de foot se souviennent de ses matchs en bleu aux côtés de Marius Trésor, lui qui était un des meilleurs défenseurs de sa génération. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour Bruno.
Au-delà du sport, racontez-nous l'histoire singulière de cet homme dont vous aviez rencontré la famille, Cécilia.
Oui, nous sommes en avril 2018, je suis alors reporter pour la direction des sports de Radio France. Bernadette, la femme de Jean-Pierre Adams, m'ouvre les portes de leur villa dans un quartier pavillonnaire à Caissargues dans le Gard. Une dizaine de bouquets viennent d'être livrés. Ils sont là dans la salle à manger, des fleurs envoyées comme chaque année par les anciens coéquipiers de son époux qui vient d'avoir 70 ans. Bernadette me conduit dans une chambre au rez-de-chaussée. Je découvre un homme au visage lisse, sans rides, sans expression. Je me souviens d'une femme caressant le front de ce patient silencieux. Elle est à la fois épouse et soignante.
Tout à la fois, hein, infirmière, garde-malade, docteur, kiné, je suis tout. Il entend, ça c'est certain. Je ne dirais pas qu'il comprend. Peut-être par instant il doit avoir des flashs. Il n'est pas branché parce que tout le monde, là, sur Facebook, et les gens qui parlent, mais qu'on le débranche, arrêter l'acharnement, mais de l'acharnement, où il y en a, il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours dit, le foot m'a tout apporté, puis maintenant, il m'a tout repris.
Le foot qui a été témoin impuissant de l'histoire de cet international athlétique et talentueux, condamné à l'immobilité, devenu sujet de discussion, cas d'école, cas de conscience, une existence comme suspendue au-dessus du monde des vivants.
Jean-Pierre Adam. Disparu donc ce matin à Nîmes après près de 40 ans de coma, à corps de sa famille évidemment, avant sa disparition ce matin. On verra s'il y a un hommage demain à Lyon. L'équipe de France joue en qualification pour la Coupe du Monde face à la Finlande demain soir. Les parents d'un jeune homme condamné dans une affaire de drogue peuvent-ils être jugés responsables de ses actes et en payer les conséquences? Question posée à Nice. La mère d'un homme de 19 ans condamné à 20 mois de prison ferme pour trafic de drogue va être expulsé de son logement HLM, Marine Protet.
Les problèmes ne datent pas d'hier, assure Côte d'Azur Habitat. Depuis 2018, le jeune homme est connu pour des problèmes de dégradation, de squat dans le hall d'immeuble. À ce moment-là, il est mineur. Depuis, il a été poursuivi par la justice pour contrôle de stupéfiants et condamné au début de l'été, le 13 juillet. Trois semaines plus tard, le 9 août, sa mère reçoit un courrier du bailleur qui lui demande de quitter les lieux parce que c'est son nom à elle qui apparaît sur le bail. Côte d'Azur Habitat se veut intransigeant, explique qu'un logement social, ça se mérite, d'autant que 16 000 demandes de logements sociaux sont en cours sur la métropole niçoise. Et pour s'assurer que l'ordre règne, le bailleur social a noué un partenariat il y a un an avec le parquet de Nice et la préfecture des Alpes-Maritimes. Objectif, être prévenu dès qu'un de leurs locataires ou une personne qui vit à son adresse est condamné pénalement. Depuis l'instauration de ce dispositif, 72 procédures d'expulsion ont été engagées.
Et elle dispose d'un mois pour faire appel. Bonjour Anthony Boré.
Bonjour.
Vous êtes le premier adjoint au maire de Nice, en charge notamment du logement. Vous êtes aussi président de Côte d'Azur Habitat, le bailleur social en question, et vice-président de Nice Métropole. Que répondez-vous aux associations qui disent qu'il n'est pas normal que la mère paye pour son fils ?
Je leur réponds d'abord qu'il s'agit d'un sujet de mixité sociale auquel je suis très attaché, comme toutes ces associations d'ailleurs, puisqu'il y a des logements dans tout notre pays, et c'est vrai aussi dans notre métropole, que je n'arrive plus à attribuer parce que personne n'a envie d'avoir en bas de ses fenêtres, dans son hall d'immeuble, dans son quartier, un trafiquant, un dealer, un guetteur qui vient être dans le paysage. Alors, pour que on puisse reconquérir ces quartiers, c'est d'abord du ressort de l'État, mais je crois que le bailleur social a aussi un rôle à jouer. On ne peut pas accepter, après avoir essayé de nouer un dialogue, que j'ai essayé de nouer avec cette famille, qui depuis 2018 pose des difficultés à divers ordres, des nuisances sonores, des dégradations, et puis du trafic de stupéfiants, et bien que on ne puisse rien faire. Moi, je ne veux pas dire aux 16 000 locataires qui attendent pendant plusieurs années un logement, je ne veux pas dire à tous ceux qui habitent dans ces quartiers et qui aspirent à y vivre en toute tranquillité, sans avoir la peur au ventre, que je ne peux rien faire. Et face à l'échec de ce dialogue et à ce soutien à la parentalité aussi, que j'aurais pu proposer à cette famille si elle avait souhaité nouer un dialogue avec nous, eh bien, j'ai été contraint devant les tribunaux de demander cette expulsion. C'est la justice qui l'a décidé.
Pensez-vous que ça puisse changer le comportement des jeunes gens embrigadés dans les trafics de drogue, des menaces de cette nature ?
Je le crois parce que je constate avec beaucoup de tristesse d'ailleurs que tous ceux qui s'adonnent au trafic de drogue sont en général plus attentifs au sort de leur famille qu'à leur propre sort. Il y a une forme d'impunité pour eux, mais une forme d'inquiétude pour la cellule familiale. Alors je veux par ce message leur dire que bien entendu, c'est la mauvaise voie qu'ils empruntent et ils font courir des risques à eux-mêmes comme à leur famille.
Alors vous n'avez qu'en partie répondu à ma première question. Il y a quand même une mère qui paye pour les actes de son fils qui est totalement inhabituel. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ?
D'abord, le code de l'habitat prévoit que chaque locataire est responsable des personnes qui sont sous son toit, que ce soit un membre de sa famille ou non, qu'il soit mineur ou majeur. Et bien entendu, quand on a des parents, et je sais à quel point c'est difficile d'élever des enfants, j'en ai deux, dans un quartier difficile, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis et je sais à quel point c'est difficile de vivre dans ces quartiers, et bien on a quand même un principe de responsabilité vis-à-vis de ses enfants, on doit assurer un contrôle, une surveillance. Encore une fois, si cette femme avait saisi la main tendue des pouvoirs publics, elle aurait pu demander au maire de Nice, au premier adjoint que je suis, un accompagnement pour pouvoir l'aider. Nous le faisons de manière très régulière. En revanche, dans cette situation, nous étions face à une impasse. Nos alertes n'ont pas été entendues et nous avons donc demandé au juge d'aller au bout de cette expulsion. Ils ont jugé qu'il y avait assez de preuves pour donner droit à cette expulsion.
Ça veut dire en un mot qu'elle est exclue du logement social tout court ou elle peut se tourner vers d'autres bailleurs?
Non, ça veut dire qu'elle peut tout à fait se tourner vers d'autres bailleurs et je serais désireux d'ailleurs d'avoir un échange direct avec elle si elle me le demande pour comprendre ce qui s'est produit, pourquoi son fils est allé sur le mauvais chemin et si cet effort est fait, s'il y a une prise de conscience, s'il y a des mesures d'accompagnement que nous pouvons proposer qui sont acceptées, eh bien nous pourrions regarder les choses dans un autre quartier aux conditions que des engagements très fermes soient pris.
Merci Anthony Boré, adjoint au maire de Nice et président de ce bailleur social après l'expulsion annoncée de cette dame à Nice et la condamnation en justice de son fils trafiquant de drogue. Continuer à réformer au fil des derniers mois du quinquennat au risque de braquer une partie de l'opinion ou bien ne pas le faire et subir l'image d'un président qui aurait renoncé à ses ambitions. Voilà le chemin des mois à venir pour Emmanuel Macron et des réponses contrastées dans la presse ces dernières heures. La grande loi dépendance ne verra pas le jour avant l'année prochaine selon le journal du dimanche. En revanche, le président de la République n'a pas renoncé à réformer les retraites, selon les Échos et Le Monde. Sur la table, il y aurait la suppression des régimes spéciaux et une retraite minimale à 1000 euros. Invité de BFM ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui semblait avoir abandonné l'espoir d'une réforme du système de retraite, souligne à nouveau son utilité.
Chacun en a conscience que l'ensemble des Français travaillent davantage. C'est indispensable pour préserver notre niveau de vie. Nous devons travailler plus longtemps. Nous devons garantir un minimum de retraite à ceux qui ont les pensions de retraite les plus modestes. Et nous devons en finir avec des régimes spéciaux qui aujourd'hui n'ont plus de signification et ne répondent plus à des contraintes particulières. Déjà qu'on en discute, c'est pas mal.
Au fond, Yael Gauss, vous qui êtes le chef du service politique de France Inter, la réforme des retraites est trop symbolique pour être complètement enterrée, c'est ça ?
Les retraites, faut-il en parler avant 2022 pour faire la réforme après ou commencer le chantier dès maintenant ? Même les ministres les plus concernés ne sont sûrs de rien, car rien n'est décidé, répète l'entourage du président. Mais réformer, c'est la clé, comme un ballon d'essai qui n'en finirait pas de rebondir. Le 12 juillet, Emmanuel Macron disait en substance « Si l'économie va mieux, si l'épidémie est derrière nous, alors rien n'empêche de faire les retraites. » L'embellie et la fin du quoi qu'il en coûte l'incitent aujourd'hui à reprendre les habits du réformateur. Pendant que la droite s'épuise à désigner son candidat, c'est le moment, insiste un cadre de la majorité, le moment de montrer son courage, son souci des finances publiques. Mais ce ne serait alors qu'une petite partie de la réforme. Il n'y a plus assez de temps parlementaire, pour tout boucler. Réforme qui se ferait alors par décret. Côté pile, le minimum à 1000 euros, consensuel. Côté face, les régimes spéciaux supprimés à EDF et à la RATP. Sujet éruptif pour des syndicats à qui Jean Castex n'a rien dit la semaine dernière. En cette rentrée, le message est d'abord symbolique. Revenu d'engagement pour les jeunes, assurance chômage, Emmanuel Macron veut montrer qu'il est toujours en mouvement et que son agenda ne se limitera plus à la gestion du Covid.
Il y a 10 jours, le gouvernement annonçait la fin du quoi qu'il en coûte. Certaines mesures demeurent tout de même. Le Premier ministre annonce ce matin la prolongation pour 6 mois des mesures en faveur de l'apprentissage dans le cadre de France Relance. Au fil des décisions de justice et de l'amélioration de la situation sanitaire, le nombre de grands centres commerciaux soumis au pass sanitaire diminue jour après jour. Il y en a 178 à l'heure actuelle. Eh bien, le gouvernement l'annonce à partir de mercredi. Agnès Soubiran, il n'y en aura plus que 64.
Oui, alors la règle est désormais la suivante. Lorsque le taux d'incidence dans un département est inférieur à 200 cas pour 100 000 habitants durant 7 jours et que ce taux continue de baisser, le pass sanitaire disparaît. Résultat, dès après-demain, 114 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés seront de nouveau en accès libre. Ce sera le cas notamment dans quasiment toute l'Île-de-France, en Haute-Savoie, dans le Bas-Rhin, la Gironde ou encore les Pyrénées-Orientales. Jacques Cressel est le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.
C'est une très bonne nouvelle qui résulte des discussions qu'on a eues avec le gouvernement tout au long de la semaine dernière. On peut espérer que progressivement, le système va continuer à diminuer et ensuite être supprimé, puisque plusieurs départements comme le Rhône ou la Seine-Saint-Denis sont désormais en dessous de 200 et seront bientôt dans la limite des 7 jours qui vient d'être fixée par le gouvernement.
Mais l'addition est lourde. Les consommateurs un peu déboussolés par la réglementation ont boudé les centres commerciaux dans leur ensemble. Moins 25 à 35% dans les centres avec passe obligatoire. Moins 10 à 15% dans les autres. À un moment crucial dans le secteur. Jacques Cressel.
Malheureusement, nous avons raté les 2 week-ends de rentrée scolaire, qui sont des moments très importants. Après Noël, c'est souvent le moment de plus grande activité commerciale de l'année. Mais on peut espérer qu'on va rattraper au moins une partie de l'activité commerciale qui a été perdue pendant cette période.
L'amélioration de la situation sanitaire permet au gouvernement d'alléger l'obligation du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Une obligation dénoncée par le MEDEF et contestée en justice par des syndicats et des particuliers, avec des décisions contradictoires qui ajoutaient à la confusion.
Amélioration de la situation sanitaire. En effet, le nombre de cas a baissé de 20% en une semaine, cas de Covid, mais le taux d'incidence moyen reste relativement élevé, près de 150, 3 fois le seuil d'alerte, et nettement plus localement. 450 à La Réunion, près de 500 dans les Bouches-du-Rhône et à la Martinique, 669 en Guadeloupe. Prenons le temps de vous raconter cette information. Reportage exceptionnel. Solène Lehen, vous avez pu suivre une évacuation sanitaire depuis la Guadeloupe. Solène, vous avez embarqué dans l'avion qui a emmené 12 patients en métropole.
Embarquement du patient numéro 1, civière numéro 6.
La première opération délicate, c'est d'installer les 12 patients endormis, intubés dans cet avion commercial d'habitude rempli de vacanciers et transformé pour l'occasion en service de réanimation volant.
Équipier en position, portez. On pose.
Parfait. L'espace est restreint, les secouristes escaladent les accoudoirs, enjambent les sièges. Certains dossiers ont été rabaissés pour pouvoir installer 12 civières.
6e civière, patient numéro 1 installé.
BNC, position décollage.
L'appareil décolle, une vingtaine de médecins et infirmiers venus de toute la métropole assurent les soins.
Comme si on était en réanimation. C'est une surveillance en continu, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des médicaments, des drogues à surveiller, à changer.
Subitement, la fréquence cardiaque d'une patiente se met à chuter.
39, hein. On est à 39. Hein. Est-ce que quelqu'un qui peut emmener le gaz du sang ?
Si besoin.
soir, t'as l'adré et je te prépare une seringue d'atropine en plus.
Il a fallu qu'on refasse un médicament pour accélérer en fait le cœur. Ça a fonctionné, hein. Le petit coup de chaud est passé, ouais.
Tout peut arriver à tout moment.
Ah bah complètement, complètement même, soit pour une patiente qui normalement sur le papier hein, est stable et pas censée faire justement ce type d'incident. Tout peut arriver en fait. On est en vol, on ne sait pas trop comment ils peuvent réagir.
Voilà. 12 malades graves transportés pendant 8 heures dans un avion commercial, c'est un exploit médical, logistique également. Lionel Lameau du SAMU de Paris est le chef de la mission.
J'aime bien utiliser le mot de réanimation volante. Ça demande de relever un défi qui est comment gérer l'électricité en vol, comment gérer les quantités d'oxygène en vol.
C'est pas de l'oxygène classique en plus.
Non, c'est un oxygène particulier, c'est des bouteilles particulières dites aéronautiques pour éviter tout risque d'explosion en vol. Jamais autant de patients n'ont été transférés sur des telles distances avec cette gravité-là et ces pathologies-là.
Après 8 heures d'un vol durant lequel le pilote a évité les turbulences, l'avion atterrit, il redécollera très vite. Cette semaine, 4 nouvelles évacuations sanitaires sont prévues des Antilles vers la métropole.
Voilà pour ce reportage entre Guadeloupe et métropole. En Nouvelle-Calédonie, un confinement strict de 15 jours reprendra demain. 3 cas autochtones de Covid ont été détectés dans l'archipel qui jusqu'ici avait été préservé de la maladie. Confinement donc à partir de demain. Toute région confondue en France, le cap des 50 millions de primo-vaccinés devrait être franchi cette semaine. Cela veut dire que 6 à 7 millions de Français éligibles ne sont pas encore vaccinés. Là est la priorité pour le directeur général de la Santé. La vaccination des 12 ans et moins n'est pas d'actualité. Près de 3 millions de garçons et filles, 2,8 millions précisément, font leur rentrée ces jours-ci dans l'enseignement supérieur. Et on se souvient à quel point les 18 mois de Covid ont été durs pour la santé mentale des étudiants. Cette rentrée doit être la plus normale possible, c'est le mot d'ordre du gouvernement. Pas de passe sanitaire, pas de jauge, 100% présentiel, gestes barrières, masques notamment en intérieur. Les retrouvailles après les mois de confinement et d'enseignement à distance. Reportage à Strasbourg d'Olivier Vogel, France Bleu Alsace.
Ça faisait bien longtemps que le campus n'avait pas connu pareille effervescence. Romaine et Mehdi sont en master de biologie moléculaire et génie industriel.
Je pense qu'on est tous heureux de pouvoir reprendre une vie un peu normale et on espère que ça va continuer comme ça.
Surtout qu'il y a le côté social, par exemple avec mes amis boire une bière, il y a aussi le côté étude de discuter avec nos camarades, surtout en master sur les différents points de vue et l'approche des cours.
Et ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Luis, un étudiant mexicain en physique.
C'était chaud parce que j'avais pas assez de pratique en français. Avec les cours en distanciel, c'était toujours un peu difficile de comprendre, même avec les problèmes de réseau, c'était pas trop clair au début. Du coup là, je suis trop content de pouvoir trouver de nouvelles connaissances, avoir des contacts avec les profs.
De quoi réjouir Michel Deneken, le président de l'Université de Strasbourg.
C'est très inhabituel de voir des étudiants sur un campus. Une impression très drôle après 18 mois de crise. Tout le monde a envie de revenir. Le fait que nous puissions tenir le pari du présentiel à 100% et de la non-obligation de passe sanitaire pour l'acte d'enseignement, c'est vraiment un élément très libérateur pour les profs, les personnels et les étudiants.
57 000 étudiants font cette semaine leur rentrée en chair et en os dans les amphis strasbourgeois.
Et des centres de vaccination seront mis en place ici ou là sur les campus. En cas d'apparition d'un foyer, 3 cas positifs au sein d'une unité d'enseignement, les étudiants vaccinés pourront rester sur place. Seules les personnes contaminées et les cas contacts devront passer à distance. Dans les écoles, déjà des fermetures de classes quelques jours après la rentrée à cause de cas de Covid, à Marseille et Cherbourg notamment. L'épidémie de Covid pèse évidemment sur la santé, mais aussi le réchauffement climatique, la destruction de la nature pèse sur la santé. Et voici une initiative inédite. Une série de grands journaux médicaux internationaux, The Lancet, le British Medical Journal par exemple, publient ensemble un éditorial pour alerter à ce sujet. Rosalie Lafarge.
Cette année doit être celle où le monde change enfin de cap, insistent les signataires de cet appel. À quelques jours de l'Assemblée générale des Nations unies et quelques semaines de la COP26 à Glasgow, le moment est crucial, peut-on lire dans cet éditorial, qui pointe les effets déjà constatés du changement climatique sur la santé.
On a vu dans les dernières 20 années une augmentation de 50% du taux de mortalité chez les personnes âgées de 65 ans et plus liées à la chaleur.
Claudelle Pétrin-Desrosiers est présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qui participent à l'initiative.
La chaleur cause des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes cérébraux, des problèmes pulmonaires. C'est un des exemples parmi tant d'autres. On peut aussi penser au stress sur les récoltes qui vont engendrer des problèmes de malnutrition. Ce sont des conséquences qu'on voit déjà et qui vont augmenter avec les prochaines années.
Seule solution, selon cet appel, une transformation profonde de nos sociétés, de nos systèmes de transport à nos villes, en passant par nos façons de produire. Cela nécessite des investissements financiers massifs et l'effort devra être équitablement réparti, plaident encore les auteurs, pour qui il est évident que tous les engagements pris jusqu'ici sont clairement insuffisants.
Vous imaginez bien qu'en Israël, on ne plaisante pas avec la surveillance de détenus palestiniens enfermés pour crimes liés à la sécurité. Eh bien, 6 viennent tout de même de s'évader en creusant un tunnel sous la prison de Gilboa, dans le Nord. Une chasse à l'homme, Frédéric Mettezo, est engagée en pleine fête du Nouvel An juif.
La plupart des Israéliens avaient déjà la tête aux festivités déconfinées de Rosh Hashanah, le repas en famille, les prières à la synagogue. Et la prison de Gilboa était en sous-effectif en raison de ses congés. Mais depuis ce matin, les médias israéliens ne parlent plus que de cette évasion, de ces rumeurs d'émeutes de prisonniers qui ont servi en fait à distraire les autorités pénitentiaires et de cette fuite par des canalisations sous le lavabo d'une cellule et par un tunnel creusé ensuite. 6 détenus palestiniens condamnés à la perpétuité pour terrorisme se sont enfuis. L'un était le chef des brigades des martyrs d'Al-Aqsa de Jenin en Cisjordanie et les 5 autres membres du djihad islamique. En 2014, une tentative d'évasion similaire avait déjà eu lieu. Dans certaines cellules, on avait coulé du béton au niveau des sanitaires, mais pas dans celle des fuyards de la nuit passée. Du coup, les détenus de Gilboa ont été transférés ailleurs. Des soldats du génie inspectent les lieux. L'armée et les services secrets ont déployé leurs troupes, des drones et des hélicoptères pour rattraper les évadés. Ils craignent que les fuyards ne passent en Cisjordanie, voire en Jordanie. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
À la fin du pétrole, on n'y est pas encore. Le groupe français Total Energy signe 10 milliards d'euros avec l'Irak pour dans le domaine du pétrole. 3 semaines après leur prise de pouvoir à Kaboul, les talibans contrôlent-ils désormais toute l'Afghanistan? Ils affirment être maîtres de la vallée du Panjshir, le fief autrefois du commandant Massoud, auquel son fils a succédé 20 ans après. Après avoir appelé à un cessez-le-feu, les opposants aux talibans, le Front National de Résistance, affirme que la lutte continuera. Julie Pietri, que peut-on dire de la situation sur place?
Les informations sont contradictoires et extrêmement difficiles à vérifier. Dans un message posté tôt ce matin sur Twitter, le Front National de Résistance explique que quand les talibans disent qu'ils occupent le Panjshir, c'est faux. Nos forces sont présentes sur tous les points stratégiques de la vallée pour poursuivre le combat. Quant au chef de cette résistance, Ahmad Massoud, il va bien selon l'un de ses bras droits. Il vient d'appeler il y a quelques minutes à un soulèvement national, qui que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières. Combien d'hommes a-t-il encore à ses côtés aujourd'hui dans la vallée? Là aussi difficile à dire, mais ses combattants, ses opposants ont été directement menacés encore ce matin. Quiconque prendra les armes contre nous sera notre ennemi, a mis en garde le porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid. Les ex-forces gouvernementales sont appelées officiellement à rejoindre maintenant l'émirat islamique. Comme si la fin de la résistance était déjà acquise, les talibans communiquent désormais sur la paix retrouvée, la fin de la guerre, la reconstruction. Les insurgés ont été tués et le reste a fui, assure-t-il toujours.
La situation en Afghanistan est scrutée de près par les services de renseignement français. Surveillance de possibles départs de Français sur place, cela paraît pour l'instant assez peu probable, selon une source à l'Élysée. Élysée qui fait aussi le point sur les personnes surveillées pour radicalisation en France à 2 jours de l'ouverture du procès du 13 novembre. 7535 personnes sont inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. En prison, 467 sont condamnés pour terrorisme. 703 prisonniers sont surveillés pour radicalisation. En Guinée, quelles sont les intentions des putschistes après ce qu'ils présentent comme l'arrestation du président Alpha Condé? Ils ont convoqué tous les ministres. La réunion doit se tenir en ce moment même. Tout refus de se présenter sera considéré comme un acte de rébellion. Ils affirment vouloir lutter contre la gabegie, la pauvreté, la corruption et pour les droits des citoyens. Une vidéo d'Alpha Condé dans un canapé habillé en jean et chemise a été diffusée hier. C'est l'un des premiers prix littéraires de cette rentrée, le prix du roman Fnac pour Jean-Baptiste Delamo et Le Fils de l'Homme, publié chez Gallimard. Comment la folie se transmet de père en fils. Jean-Baptiste Delamo était l'invité de la matinale de France Inter il y a une dizaine de jours pour parler de ce roman qui vient après d'autres sur ce même thème.
Dans Le Fils de l'Homme, je crois avoir resserré un peu la focale, puisqu'on a simplement 3 personnages avec quasiment une unité de lieu, qui est cette maison perdue dans la montagne, et dans laquelle va se jouer ce qu'on pourrait dire être une tragédie. tragédie familiale autour de la transmission de la violence, en effet, de ce père envers ce fils. Je me pose toujours la question, mais je trouve ça assez fascinant de voir comment, d'une génération à une autre, à travers les temps, il existe dans les familles une forme de transmission tacite de schémas comportementaux, d'événements, d'images qui se répètent comme ça. Et je trouve que pour un romancier, c'est un terrain assez fascinant à explorer.
Vous parleriez de fatalité ?
Oui, il y a une forme de fatalité. En tout cas, mes personnages sont toujours des personnages qui se débattent avec des déterminismes sociaux, familiaux, psychologiques, et qui, de manière un peu obscure, aveugle, essaient de s'en libérer aussi. Et c'est la question que j'essaie de poser à travers mes livres. C'est est-ce qu'on peut vraiment échapper à ce passé, à l'histoire de nos ancêtres ?
Jean-Baptiste Delamo, prix du roman FNAC, avec Ilana Mor-Youssef et Hélène Roussel, il y a quelques jours sur France Inter. Ça, c'était un peu avant minuit hier soir, une boule lumineuse dans le ciel. On l'a vu dans un large quart nord-ouest de la France et même en Angleterre. Seine-Maritime, Manche, Morbihan pour la France, au-dessus de la commune d'Arzal, près de Val. Témoignage de deux Bretons, Vanessa, qui l'a vu près de Brest, et Steven.
Une grosse détonation, mais vraiment comme un avion qui dépasse le mur du son, vous voyez, ouais, ça a peut-être fait double détonation, ça fait un gros babam, quoi, mais toute la maison a craqué, on a senti les vitres comme un souffle, et s'en est suivi un long grondement, c'était assez impressionnant, quoi.
Je roulais entre Rennes et Saint-Brieuc, le ciel était complètement limpide, hein, la nuit était claire, et d'un coup, j'ai vu un objet passer, un objet qui a illuminé vraiment le ciel, c'était une couleur un peu verte-blanche, et c'était vraiment très spectaculaire, hein. Ça a vraiment illuminé le ciel de manière très claire. Ça a duré 5 secondes mais je me suis vraiment demandé pendant un petit temps ce qui se passait.
Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Alors babam, puis couleur verte et blanche, de quoi s'agissait-il ?
C'était un bolide, autrement dit un météore qui a généré donc ce phénomène lumineux en traversant l'atmosphère à très grande vitesse et donc en se consumant. Trois caméras du réseau Fripon, qui est justement dédié à l'observation de ces phénomènes, ont enregistré la trace de cette méga étoile filante, si on peut dire. Elles ont permis par triangulation de reconstituer la trajectoire de cet objet céleste qui ne devait pas faire plus d'un kilo selon les scientifiques. Il a commencé en fait à entrer dans l'atmosphère au sud de la Bretagne pour terminer sa course au milieu de la Manche. Il arrivait à 70 km par seconde. Il venait de très loin, au-delà de Neptune, et c'est sa très grande vitesse, sa très grande énergie en somme qui explique l'intensité de la lumière que l'on a vue, aussi importante qu'une pleine lune. Mais sa petite taille explique qu'il n'y a eu aucun fragment sur Terre, et puis de toute façon dans la Manche on ne les aurait pas trouvés. Le bang supersonique évoqué par cette femme est bien réel. Il correspond à une onde de choc supersonique qui a vraisemblablement été enregistrée par les sismographes sur Terre. On attend donc les signaux. Ce phénomène naturel n'est pas rare. Hein. Il se produit plusieurs fois par an, mais pas toujours à une heure idéale et pas toujours par ciel dégagé. Donc hier, peu avant minuit, c'était une bonne fenêtre.
À propos de ciel dégagé, dans un instant, la météo d'Élodie Calac et puis avec notre invité, cette question, la hausse des prix est-elle durable ?
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
L'aventure a un visage. Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se dessine dans l'ombre d'une cabine de pilotage. Corto Maltese est de retour. Bastien Vivès et Martin Kenéen s'emparent du mythique aventurier Hugo Pratt et l'emmènent des rues bondées de Tokyo aux plus hautes montagnes d'Amérique du Sud. Découvrez le gentilhomme de fortune comme vous ne l'avez jamais lu. Corto Maltese, Océan Noir. Un roman graphique Casterman à retrouver en librairie. France Inter aime
Napoléon, l'exposition. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, découvrez une exposition exceptionnelle et familiale. Plus de 150 pièces originales des plus grands musées sont réunies pour la première fois à travers un parcours immersif et pédagogique pour tout comprendre de la vie de ce personnage légendaire et controversé et d'une période clé de notre histoire. Réservation sur expo-napoléon.fr. Napoléon l'exposition, jusqu'au 19 décembre à la Grande Halle de la Villette à Paris, en coproduction avec la RMN Grand Palais, un partenariat France Inter.
Le temps de cet après-midi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Eh bien, c'est estival.
Oui, la chaleur s'accentue encore aujourd'hui. Il va faire très chaud, notamment sur l'ouest du pays. On attend 36 degrés à Mont-de-Marsan, 35 à Bayonne, 34 à Toulouse, 33 degrés à Nantes, à La Rochelle, 32 pour Bourges et au Mans également, 30 degrés à Brest, à Paris, à Lyon, 29 à Mulhouse, 27 à Lille et au Havre et 25 degrés du côté de Saint-Malo. Alors tout ça sous le soleil, hein, le plus souvent, juste quelques nuages d'altitude au nord de la Seine sans conséquence. Un peu de grisaille tenace sur le Roussillon, poussé par un vent de sud-est qui souffle jusqu'à 50 km à l'heure en région toulousaine. Et puis en montagne, sur les Alpes, la Corse, l'est des Pyrénées, là on attend quelques averses dans l'après-midi, voire un orage. Demain, on aura encore de fortes chaleurs, du soleil, un peu plus voilé sur les régions de l'ouest et ça va annoncer la dégradation orageuse pour mercredi avec une baisse des températures.
Élodie Calac, Météo France, tout de suite, l'inflation est-elle durable et inquiétante?
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Le carton, le papier, l'énergie, les matières premières agricoles, les fruits et légumes, on ne compte plus les domaines où les prix augmentent, voire explosent en cette rentrée. Qui va payer? Les consommateurs, les entreprises en rognant sur leurs marges ou la grande distribution pour les produits de la vie quotidienne? En tout cas, l'inflation redevient un sujet, plus 2% en France en août, plus 3% dans la zone euro. Rien n'indique que cela va se tasser. La question des hausses de salaire est également posée, vu le manque de main-d'œuvre, autre facteur d'inflation à son tour. Alors quel mécanisme? Quelles barrières, quelles conséquences pour nous tous? J'attends vos questions et vos témoignages sur ces hausses de prix au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Avec nous, Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CNRS à l'Université Paris Dauphine. Vous avez également un podcast qui s'appelle Un shot d'écho, comme un shot de cocktail. Comment explique-t-on ces hausses de prix, Anne-Laure Delatte? Est-ce qu'il y a un phénomène général? Parce qu'on parle de secteurs très différents.
Alors, déjà, pour répondre à votre question, ça n'est pas alarmant. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des augmentations de prix, mais moi, je n'appellerais pas ça de l'inflation. L'inflation, nos parents s'en souviennent, à vous comme à moi, dans les années 70, il y avait de l'inflation, il y avait 5-6% par an. Et en fait, à ce moment-là, ça voulait dire que il était plus compliqué pour une entreprise, par exemple, de savoir, de prendre des décisions sur l'avenir parce qu'on savait pas exactement quels seraient les prix l'année prochaine. Vous voyez, quand je prends des décisions d'investissement ou quand je décide d'embaucher, j'ai besoin, en tant qu'entrepreneur, de savoir que comment seront les prix l'année prochaine. Là, on n'en est pas là. On est à moins de 2% sur une année. Alors, évidemment, il y a un impact.
Mais une augmentation assez nette ces derniers mois malgré tout.
Oui, mais qui s'explique et qui s'explique de façon vraiment conjoncturelle. Après, il faut bien sûr en tenir compte et ça a un effet sur le pouvoir d'achat des Français. Enfin, alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on est dans une reprise extraordinaire. En fait, que ça soit en France, en Europe ou aux États-Unis, finalement, on n'est pas vraiment sorti de la crise pandémique puisque on n'est pas tous vaccinés. Et pourtant, l'activité économique reprend. Et quand l'activité économique reprend, c'est la demande. Et donc, il y a plus de demandes de la part des Français, des ménages,
des Français, entreprises.
Donc, il y a une augmentation des prix à la consommation et aussi des prix à la production des matières premières. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, l'exemple typique, c'est les semi-conducteurs.
Voilà, j'allais y venir. Ça se traduit aussi par une série de pénuries.
Voilà. En fait, bon, souvenez-vous, grand confinement, on stoppe toute l'économie mondiale. Et là, tout d'un coup, on reprend et on reprend vraiment très vite. Donc en fait, il y a des goulots d'étranglement un peu partout dans le monde. Et notamment en Asie.
La rapidité, la brutalité de la reprise a pris de court un certain nombre d'acteurs économiques. C'est ça que vous nous dites?
Oui, alors il y a un certain nombre de choses qui nous ont pris de court. C'est-à-dire que ce grand confinement, on n'en avait jamais vécu. Donc, on a arrêté les chaînes de production. Par exemple, les voitures de seconde main sont devenues très chères l'année dernière. Pourquoi? Parce que comme on ne produisait plus de voitures neuves, les consommateurs se sont reportés sur les voitures de seconde main. Bah, en fait, ça s'est passé un peu dans certains secteurs de cette façon-là. Vous avez eu des goulots d'étranglement parce qu'il n'y avait plus de production. Tout d'un coup, la demande reprend. Alors là, par exemple, en Asie, en ce moment, comme il y a des foyers encore
de Covid,
vous avez des goulots carrément dans les ports. C'est-à-dire que le fret maritime a augmenté. Et donc ça, eh bien, ça augmente les prix. Ça augmente les prix à la production pour les entreprises.
Ouais, parce que le coût du transport maritime aussi a augmenté. La location des containers, le coût du transport, tout au long de la chaîne, il y a des augmentations.
Alors oui. Et vous alliez dire tout augmente, et en effet, enfin, il y a beaucoup de choses.
Je me suis retenu de le dire.
Non, alors justement, il y a beaucoup de choses qui augmentent, mais pas tout, justement. Voilà. Et pour revenir à cette notion d'inflation, en fait, ce qui serait vraiment inquiétant, c'est si on observait une augmentation durable du taux d'augmentation des prix, du taux de croissance des prix. Aujourd'hui, encore une fois, on est à moins de 2%. 2%, c'est la cible que s'est donnée la Banque Centrale Européenne. Donc en fait, on n'y est même pas. Du coup, pour l'instant, ils sont absolument pas alarmés. Bon, aux États-Unis, les prix ont augmenté de plus de 5% l'année dernière. Vous voyez, donc en comparaison, en fait, en France, pour l'instant, on n'en est pas là.
Et est-ce que la Banque Centrale Américaine a commencé à faire les gros yeux avec une augmentation de 5% ou pas ?
Eh bien justement, non. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, à 5%, nous, on serait complètement affolés en Europe. Hein. En plus, on a les Allemands. Les Allemands, ils sont complètement traumatisés par l'inflation.
Dans leur histoire, oui.
Voilà, dans leur histoire. Les États-Unis, mais comme en Europe, disent « non, c'est temporaire ». En fait, on peut tout à fait expliquer ce qui s'est passé. On a encore une fois des goulots d'étranglement, des pénuries, une forte demande, et donc on a des flambées, mais vraiment, enfin entre guillemets, hein, on a des augmentations de prix brutales, mais ça ne va pas rester, ça va être en une fois en fait.
Et ça va se dissoudre au fond, les goulots vont se dissoudre.
Oui, encore une. Alors normalement, si tout va bien et on a une reprise très rapide, ensuite une reprise qui va se stabiliser. Parce qu'on est à plus de 5% par an de croissance, on n'avait pas entendu ça, nous, on ne connaissait pas. Bon, mais c'est normal, on est en train de reprendre. Hein. Une fois que le taux de croissance va se stabiliser, bien les prix vont se stabiliser.
Alors, est-ce que ça explique aussi, parce qu'il y a des hausses dans l'industrie, dans les matières premières industrielles, il y a des hausses des matières premières agricoles aussi. Est-ce que ça répond au même mécanisme ou est-ce qu'il y a autre chose qui explique ces hausses de prix de matières premières agricoles ? Je pense au blé avec les conséquences sur le pain et les pâtes, pour aller de l'origine à la vie quotidienne.
Alors, oui, d'une part, il y a des facteurs communs, mais là, il y a un facteur supplémentaire, c'est climatique. C'est un facteur climatique, c'est-à-dire que il y a eu une mauvaise saison, on a eu des événements extrêmes climatiques, et ça, en revanche, c'est un facteur structurel. C'est-à-dire que même tout ce qu'on vient de décrire là, j'ai commencé par vous dire « Ah non, mais ça n'est pas alarmant parce que c'est conjoncturel, on peut l'expliquer ». Oui, mais finalement, il faut aussi comprendre qu'on va commencer à vivre dans un monde où les événements extrêmes vont être de plus en plus nombreux. En fait,
Vont se traduire en termes de prix.
Eh oui. En fait, les prix, c'est vraiment le meilleur indicateur en économie de ce qu'est votre activité économique et des enjeux, des problèmes qu'il peut avoir entre l'offre et la demande. Et donc cet écart-là, par exemple, suite à des inondations ou à des incendies ou enfin à tout ce qui peut traduire le changement climatique, bien sûr que ça va avoir des effets. Alors ça a des effets, on le comprend bien sur les produits agricoles, hein, sur les prix agricoles, puisqu'il y a une pénurie, donc les prix augmentent tout d'un coup. Mais ça va avoir des effets dans l'industrie parce qu'il y a des goulots d'étranglement comme sur les semi-conducteurs. Enfin, et donc on sait d'un côté que on doit s'habituer à une économie qui va être probablement plus erratique parce que on va subir ce genre d'événements. Malheureusement, la pandémie n'est probablement pas la dernière et on aura des catastrophes climatiques comme il y a eu en Allemagne cet été. Donc il va falloir s'habituer à ce côté erratique. Mais là où ça n'est pas inquiétant, alors c'est hyper inquiétant pour notre climat, pour notre planète, etc. Mais en fait, l'inflation, pour revenir au sujet, le moteur de l'inflation, c'est les salaires. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire.
Et on parle d'augmentation des salaires parce qu'il y a souci de pénurie de main-d'œuvre. Donc les syndicats et même le MEDEF disent la question des salaires se pose. Donc moi, ce que je me dis, mais voilà, j'attends votre éclairage, c'est que en plus, il y a cet élément qui va arriver, qui va peut-être nourrir l'inflation.
Oui, alors, bon, on en parle, mais on n'en parle quand même pas beaucoup. Alors, en fait, institutionnellement, on n'est pas du tout dans le même marché du travail que dans les années 70. Pour le dire très simplement, le pouvoir de négociation des salariés s'est largement amoindri depuis les années 70. Et en plus, on n'indexe plus les salaires à l'inflation. En fait, les derniers qui ont connu ça, en France, c'était au début des années 80. C'est sous Mitterrand qu'on a arrêté d'indexer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les prix ont beau augmenter, moi je dois négocier avec mon patron, alors moi ou les syndicats qui me représentent, doivent négocier.
Et donc, qui manifesteront sur ce thème le 5 octobre.
Oui, mais alors vous voyez que on est dans un rapport de négociation beaucoup plus tendu que dans les années 70 où c'était automatique. Et en fait, c'est ça qui créait l'inflation. C'est ça qui a été cassé Alors, d'un côté, c'est positif pour la stabilité des prix. De l'autre, ça l'est probablement moins pour le marché du travail, pour les salariés et pour la défense du pouvoir d'achat.
Encore une question dite de macroéconomie et puis on reviendra à la vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire que, vous nous dites, l'économie va devoir changer? Il y a goulot d'étranglement et puis il y a les incertitudes qui vont peser liées au changement climatique. Est-ce que ça veut dire que l'idée que les entreprises fonctionnent avec le minimum de stock possible est une idée qui appartient au passé? L'usine Toyota est actuellement à l'arrêt parce qu'on manque de semi-conducteurs. C'est Toyota qui avait inventé, entre guillemets, cette idée du just-in-time. Les pièces arrivent au fur et à mesure, c'est fini, ça, il va falloir faire des stocks.
Il va probablement falloir changer pas mal de façons de travailler et de produire. Alors, est-ce que ça va se traduire dans les stocks pour certaines entreprises? Est-ce que ça va se traduire par un raccourcissement des chaînes de production ou des chaînes de valeur? En fait, ce qu'on a observé depuis 20 ou 30 ans, c'est que, en fait, il y a de plus en plus de pays impliqués dans la production d'un bien manufacturé.
Oui.
D'accord ? Avant, on en avait peut-être deux, maintenant, on en a 10.
Mm-hmm.
Et donc, peut-être une autre façon de réagir à ces goulots d'étranglement, c'est de réduire au maximum, ou tant que possible, ces chaînes de valeur pour être moins dépendant, justement, des fluctuations comme on vient de les subir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de réduire les stocks? Ben, tout ça, en fait, ça va être de l'apprentissage dans les entreprises. Il y a des gens qui ont un métier pour ça, qui vont aider les entreprises à optimiser leur logistique.
Ouais. De réduire ou de les gonfler. On voit qu'on demande maintenant, on va demander aux laboratoires sur un certain nombre de produits d'avoir 2 mois de stock devant eux.
Oui,
par
exemple, pardon.
Pour les médicaments.
Oui, c'était augmenter les stocks et réduire les chaînes de valeur.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est possible? Voilà, on va faire des efforts en logistique. Et deuxièmement, sur les chaînes de valeur, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on puisse réduire ça, parce que en plus, ça impliquerait moins de transport, donc moins d'émissions carbone.
Question d'Emmanuel au standard. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, merci de nous appeler.
Ben, je vous en prie. Écoutez, ma question est plutôt une remarque et une interrogation plus de ma part. C'est, je fais construire une maison passive bioclimatique en ossature bois. Le projet est né il y a un an à peu près. On a longuement réfléchi et je dirais que le budget me permettait il y a un an. Aujourd'hui, les devis arrivent et ils ont pris entre 20 et 30%.
Mmh.
Donc, le projet est complètement remis en question, voire annulé. C'est un peu dramatique parce que on fait un effort sur le fait de construire peu énergivore et finalement on se retrouve coincé. Et c'est dommage que nous, ceux qui essayons de construire bioclimatique et avec des matériaux biosourcés, ne soyons pas un peu plus aidés, contrairement à la rénovation pure et simple, sur des bâtiments qui, des fois, ne le nécessitent pas, parce que finalement, ça coûte aussi cher de le détruire que de le rénover. Voilà, la question est combien de temps ça va durer, parce que j'aimerais signer bientôt les devis, mais n'ayant aucune perspective, ni même les fournisseurs, ni même notre architecte n'ont de perspective favorable, on va dire optimiste. On se pose beaucoup de questions.
Je comprends. Merci Emmanuel pour ce témoignage et j'aurai une autre question sur l'immobilier. Anne-Laure Delatte, je vous laisse réagir à ce que vient de dire notre auditeur.
En fait, c'est malheureusement une bonne illustration de ce que je viens de me dire, il me semble, parce que premièrement, vous voyez, l'auditeur vient de nous dire, en fait, combien de temps ça va durer, parce que l'architecte est paumé, tout le monde est paumé dans l'histoire. Bah, c'est vraiment une bonne illustration de quand les prix augmentent, en fait, on n'arrive pas à anticiper les décisions. Et donc, l'idée d'avoir des prix stables, en tout cas une inflation stable, d'accord, c'est d'ancrer les anticipations. Donc là, vraiment, on a un bon exemple. Après, enfin, malheureusement, pour l'auditeur.
Oui.
Maintenant, c'est vraiment très ciblé, c'est-à-dire que c'est sectorisé. En fait, ça doit être le prix du bois, puisque apparemment, il nous a parlé du bois.
De saturbois, oui.
Voilà, donc ça doit être le bois et certaines matières premières. Et ça illustre un deuxième point, c'est la difficulté des politiques publiques à réagir dans ces cas-là. Parce que ce que nous dit l'auditeur, c'est malheureux, parce que moi, je voulais construire une maison qui s'adapte au climat, enfin qui est plutôt dans la bonne tendance qu'il faut aujourd'hui. Et je suis pas aidée finalement par les autorités publiques. Et donc là, je trouve que ça illustre bien la difficulté d'un État, d'une administration, à réagir le plus vite possible à ce genre de fluctuations.
Anne-Laure Delatte, on sait à quel point les taux d'intérêt bas ont stimulé le marché immobilier. Est-ce que il risque d'y avoir une hausse aussi minime soit-elle des taux d'intérêt qui rendrait un peu plus compliqué l'acquisition de biens immobiliers?
Alors, Pour l'instant, du côté des banques centrales, il n'en est pas question. Comme on disait tout à l'heure, la réserve fédérale américaine nous dit on n'a pas de problème d'inflation. Alors, je vais commencer à normaliser ma politique d'ici 6 mois et peut-être dans 1 an, je réfléchirai à augmenter légèrement mes taux. En Europe, on n'en est pas là du tout. Nos taux directeurs sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a des taux pour l'instant qui ne vont pas augmenter. Et non, moi je serais plus inquiète sur les prix de l'immobilier en général que sur le taux d'intérêt.
Merci Anne-Laure Delatte d'être venue dans les studios de France Inter. Je mentionne donc votre podcast, un shot d'écho qu'on trouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans 5 minutes le feuilleton. Nous passerons la semaine avec l'un des jeunes des quartiers nord de Marseille, rencontré la semaine dernière par Emmanuel Macron. Il s'appelle Amine. Il a 17 ans. Il vient d'obtenir son bac mention très bien. Son frère a été tué en décembre dernier. Son frère embrigadé dans le trafic de drogue. Amine se bat pour que les choses changent. Nos deux chroniqueurs en cette journée consacrée aux attentats qui ont changé le monde. Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Souvenir d'une autre époque d'attentats dans le vif.
Et il y a 60 ans, les attentats quotidiens, c'était de la haute époque de l'OAS.
Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
La journée de samedi marquera les 20 ans du 11 septembre. À votre micro Frédéric, aujourd'hui, le journaliste Baptiste Boutier, auteur du scénario de la bande dessinée 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé, cela vient de paraître chez Dargo.
Lui, Baptiste Boutier, il était encore au collège il y a 20 ans. Il venait d'entrer en 3e et c'est sa mère qui lui a appris l'événement. Il s'est passé quelque chose de grave à New York. On retrouve d'ailleurs la phrase au début de cette BD résolument didactique.
L'idée de départ, c'est de s'adresser plutôt aux plus jeunes, aux adolescents, aux jeunes adultes qui étaient soit panés, soit trop jeunes au moment du 11 septembre 2001 pour s'en souvenir ou bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, l'importance de cet événement et l'impact que ça a pu avoir sur les 20 ans qui ont suivi. Et donc cette BD, elle raconte l'événement avec différents points de vue et comment le monde a changé, a basculé ce jour-là et s'est modifié depuis. Évidemment, à l'échelle internationale, les événements récents en Afghanistan nous le rappellent, mais y compris voilà, dans notre vie quotidienne de tous les jours, le plan Vigipirate, le terrorisme global, tout un tas de choses qui sont venues nous impacter directement, alors que a priori, c'est assez éloigné du 11 septembre, mais en fait, c'est lié.
Septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre, mal si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour, mais quel mal me prie de m'éprendre de lui.
C'est donc la voix de Camille qu'a choisi Baptiste Boutier, Frédéric.
Avec Pâle Septembre, l'un des titres de son deuxième album, Le Fil, sorti en 2005.
On l'entend pas forcément, mais c'est une chanson qui parle du 11 septembre. C'est une chanson que j'ai eue en tête d'ailleurs en écrivant la BD, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui mêle en fait, ou Camille mêle à la fois une histoire d'amour très intime et cette catastrophe globale, universelle, en mondovision. Les deux s'entrelacent comme ça dans la chanson. Elle parle de qui est cet homme qui tombe de la tour du World Trade Center, qui est cet homme qui tombe des cieux à la fois du 11 septembre et qui me tombe dessus à moi, Camille amoureuse. Qui est cet homme qui tombe amoureux. Voilà, elle entrelace comme ça les deux histoires en 3 phrases.
Je t'aime toujours, mais qui est cet homme? Je tombe de la tour, semblant. Je t'aime toujours, mais qui est cet homme? Je tombe des cieux. Je t'aime toujours, mais qui est cet homme? Je tombe toujours amoureux. Je t'aime toujours.
Un peu un moment, si on écoute les paroles en anglais, une allusion au mythe d'Icare qui se rapproche du soleil. Elle explique que ce mythe d'Icare, ça l'inspire parce que ces hommes, ces femmes qui ont sauté des tours du World Trade Center, pour elle, c'était un peu des Icares à l'envers, qui ont sauté pour aller voir le sol, comme Icare a cherché à monter vers le ciel, quoi, pour s'échapper de quelque chose.
Quand vous l'entendez, vous pensez directement aux tours du World Trade Center ?
Pas directement, je trouve que c'est d'abord une chanson d'amour, une chanson de fin d'histoire, mais je trouve ça très beau justement que ça soit aussi une allusion au septembre. Évidemment qu'une rupture amoureuse, ça ne peut pas être comparable ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Et en même temps, ça dit bien à quel point, en son fort intérieur, on peut être dévasté, et comme si nos tours intérieures étaient elles aussi percutées par deux avions. Et je trouve que tout le monde peut se reconnaître dans sa façon de décrire ce dépit amoureux, cette nostalgie que ça peut susciter, et la tristesse que ça peut susciter. Et pour moi, Camille, c'est une artiste assez incroyable, et j'aime beaucoup, beaucoup son répertoire, mais cette chanson-là particulièrement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à contenir mon émotion quand je l'entends. Elle a une simplicité redoutable.
Par le septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre.
Pâle septembre, Camille, choix du journaliste Baptiste Boutier qui vient donc de publier sa première bande dessinée, Frédéric.
Avec la dessinatrice Héloïse Chauchois, 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. C'est une coalition d'Argo et Topo.
Ces attentats qui ont changé le monde, nouvelle chronique en lien avec cette journée spéciale sur France Inter dans 5 minutes. Le vif de l'histoire avec Jean Lebrun à côté de moi. D'abord le feuilleton, jusqu'à vendredi, une semaine dans la vie d'Amine Kessassi. Il a 17 ans, il vient d'obtenir son bac pro, mention très bien. Il rêve d'intégrer l'ENA ou l'Institut du Service Public qui lui succédera. Amine fait partie de ceux qui ont interpellé le président de la République la semaine dernière dans les quartiers nord. C'est de là qu'il vient, lui et son frère, happé son frère, par les trafics de drogue dès le collège. Et en décembre dernier, le corps calciné de Brahim a été retrouvé dans une voiture, il avait 22 ans. Il faudra de longs jours pour l'identifier. C'est le premier épisode de ce feuilleton. Amine, avec Mathilde Vinceneux.
Je m'en souviens comme si c'était hier, j'en ai encore les frissons. J'étais sorti donc vers 10h en ville me promener, j'avais rendez-vous avec une enseignante à moi. Je lui ai fait un cadeau de Noël. Puis je reçois un appel de maman qui me dit vite, rentre, c'est ton frère. Donc sur le chemin, je me demandais, mais c'est mon frère quoi? C'est qui? Est-ce que c'est le petit qui est tombé en jouant au ballon? Jamais je me suis dit qu'on avait tué mon frère, qu'on l'avait brûlé. La première nuit est passée où la famille sont venues. C'était très très glacial de tous les voir et je me souviens qu'on m'a un peu engueulé parce que je les voyais toutes pleurer, mes tantes, ma mère pleurer, crier, et je leur disais non mais arrêtez, vous êtes débiles, c'est pas Brahim, enfin, il va revenir, j'en suis sûr. Puis le lendemain est venue une policière de la police judiciaire et un collègue à elle. Puis ensuite elle nous a demandé si Brahim avait une gourmette, donc on lui a répondu oui, donc elle a dit bon bah il y a un des corps qui avait une gourmette, mais attendez, ça ne va absolument rien dire. Le lendemain, elle nous a rappelé en nous disant on a trouvé du sang de Brahim, mais ça veut peut-être dire que justement, il est blessé et qu'il s'est enfui.
Là, on est 3 jours après. Et tu n'y crois toujours pas?
Toujours pas. Moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment l'attente qui m'a fait le plus mal. Ça a pris quand même 4-5 jours. Et à la Caplette, il y a le centre mortuaire. C'est à côté de l'hôpital La Timone. Donc un matin, c'était 5 jours après, vers 7h du matin, je suis allé là-bas avec mon oncle, mon frère. Ils ont ramené donc le corps dans un drap devant nous et le cercueil était ouvert. Donc ils l'ont porté pour le poser. Et avant qu'ils ferment le cercueil, j'ai demandé à ce que je mette aussi ma main. Donc j'ai posé ma main. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon bah c'est vrai quoi, enfin, je touche Brahim qui est devant moi, qui n'est pas vivant, qui est calciné. Et puis c'est là, à ce moment-là que je me suis dit que je peux parler avec Brahim. Et j'ai parlé à Brahim, je lui ai dit, pour Luna, t'inquiète pas, enfin, on s'en occupera quoi. Ça c'est, donc c'est Luna, la fille de Brahim, ma nièce, qui a fait le 24 avril 2 ans. Et j'ai trouvé des photos où elle jouait avec son papa. Si on veut lui rendre hommage, si on veut le rendre heureux, on doit s'occuper de sa fille, on doit être tous soudés et puis avancer.
Ce qui aide un peu Amine et sa famille, c'est l'avancée de l'enquête difficile dans ces affaires de règlement de compte. Une sur deux est résolue à Marseille, selon la police judiciaire. Mais dans ce cas, 3 mois et demi après les faits, 10 personnes sont interpellées, 3 mises en examen et placées en détention provisoire. Elles sont toutes reliées à l'assassinat de Brahim, à celui de son ami et à une 3e personne retrouvée démembrée quelques jours plus tard. Mais il est rare que les commanditaires se retrouvent derrière les barreaux.
Ce qui m'énerve le plus, c'est de me dire que ces personnes, c'est juste des pions et que derrière tout ça, il y a des géants qui sont soit à Dubaï, soit dans des pays où les lois ne les poursuivront pas et que ces personnes sont actuellement peut-être au bord d'une piscine ou dans un restaurant ou en train de vivre leur vie sur le dos de ces esclaves humains qui sont là à s'entretuer. Et c'est tellement dommage de se dire qu'à cause de la faim de certains, que ces jeunes restent prisonniers et que soit, s'ils veulent quitter ces trafics, c'est soit la case prison, soit la case cimetière.
Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, nouvel épisode demain, au micro de Mathilde Vinceneux, réalisation du feuilleton Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Ces attentats qui ont changé nos vies, journée spéciale sur France Inter cette semaine, mention évidemment du 11 septembre, les 20 ans samedi, le 13 novembre aussi, le procès commence après-demain. C'était, Jean Lebrun, des attentats de masse. Les Français ont un peu perdu le souvenir des attentats quotidien qui scandèrent l'automne 1961, l'année 1962. La métropole vivait les mêmes souffrances que l'Algérie où la guerre ne finissait pas.
Depuis au moins 3 ans, le FLN avait exporté sa violence de ce côté-ci de la Méditerranée. Et les partisans ultra de l'Algérie française vont décider délibérément de faire de même. L'OAS, organisation de l'armée secrète, fondée en février et qui commence à prendre de l'ampleur, a d'ailleurs décidé de calquer ses structures sur celles du FLN. Il n'est pas jusqu'à la perception d'un impôt forcé que l'OAS n'imite du FLN. Brigitte Bardot, alors fermement sollicitée, répond qu'elle ne veut pas vivre dans un État nazi. La presse de gauche l'applaudit. Non, conçue certes en Espagne franquiste, l'OAS n'est pas nazi. Pour elle, les nazis, elle emploie aussi le mot gestapiste. Ce sont les gaullistes qui ont accepté l'évolution du chef de l'État, mu peut-être par quelques motifs inavouables, la franc-maçonnerie, et qui en est venu à proposer l'autodétermination en Algérie. L'OAS, elle, considère la séparation de la France et de l'Algérie comme un accélérateur de la décadence de l'Occident et un grand remplacement du colon combatif par le bougnoul paresseux.
Avril 1961, échec à Alger du putsch du Carteron de généraux en retraite. Cela prive le peuple pied-noir, majoritairement Algérie française, de débouchés politiques. Le général Salan, qui a pu gagner la clandestinité, prend la tête de l'OAS, mais qui faire ?
Exploiter le désarroi des pieds-noirs et s'instaurer, de gré ou de force, comme leur unique porte-parole et provoquer la peur chez les adversaires. Les Européens dits libéraux sont les cibles de prédilection. En attendant que le terrorisme puisse franchir la Méditerranée, il suffira alors d'une centaine d'individus capables de tuer pour faire parler de l'OAS dans la grande presse.
Et tout de même, à l'époque, il paraît plus efficace de s'attaquer à la clé de voûte du système politique, le chef de l'État. Le supprimer, ce serait provoquer une crise dont le courant de l'Algérie française pourrait tirer parti.
Alors, ce début de septembre 2021, c'est le 60e anniversaire du premier attentat perpétré contre le général de Gaulle, du moins le premier attentat annoncé par le pouvoir. Le 7 septembre 1961, au soir, un petit groupe de spadassins se réunit à Alésia. Demain, c'est confirmé, disent-ils, de Gaulle part pour Colombey. Un dispositif est déjà installé sur la route à hauteur de Pont-sur-Seine dans l'Aube. 4 kilos de plastique et un liquide explosif dissimulé dans un tas de sable destiné à protéger la chaussée du verglas l'hiver prochain. Le feu est mis au passage du convoi présidentiel le 8 à 20h30. La déesse du général est prise dans un rideau de flammes, mais la dose de plastique était insuffisante et le chauffeur du général, Maroux, est un as en matière de rétablissement et d'accélération.
Un an plus tard, toujours début septembre 62, a lieu aux Assises de Troyes, le procès de Pont-sur-Seine.
Dix-Sévignancourt, l'avocat de la Défense, plaide contre l'évidence que c'était un attentat bidon, une provocation. Pas de chance, une autre tentative vient d'avoir lieu en 62 au Petit Clamart. L'organisateur en était le lieutenant-colonel Bastien Thierry, qui semble rétrospectivement avoir été aussi la tête pensante de Pont-sur-Seine. Quant à Salon, lui, il maintiendra toujours qu'il n'était pas au courant. Ah oui, il ne voulait pas faire couler le sang. En tout cas, dès octobre, le mois suivant, 61, il n'hésite pas à dépêcher en métropole Canal, dit le monocle. Ces gens-là, ils aiment bien les blases. Vous savez, il y avait Jésus de Babel-Oued, le chouan de la Mitidja, etc. Pour Canal, c'est simple, il n'y a même pas besoin de cible. Le jour, on assassine au hasard, et le soir tombé, on déclenche des nuits bleues. 60 ans plus tard, ce terrorisme-là ne semble plus guère inspirer l'horreur, et on se demande bien pourquoi.
Dans le 18-20, Fabienne Saint-Est, tout à l'heure, cette journée spéciale continue, état de la menace terroriste dans le monde. Et puis, il y a bien sûr le podcast de Grégory Philips, 11 septembre, l'enquête sur franceinter.fr et les bonnes applications de podcast. Et le podcast de Sarah Guibaudot, consacré au 13 novembre. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré à Marseille aujourd'hui.
Oui, avec Camille Grenier qui est là à mes côtés.
Bonjour Bruno.
Bonjour Camille.
Congrès mondial de la nature. Voilà, on va parler de biodiversité.
À tout de suite tous les deux.